entre le Paris de sa jeunesse et celui de 1951, entre sa jeunesse et 1951, est une douleur quotidienne, dans ses promenades au quartier latin, dans ses longues flâneries en banlieue. Il fréquente, c'est beaucoup dire, quelques Iraniens exilés comme lui. Ces Iraniens le trouvent un peu hautain, un rien méprisant, ce qui est vraisemblablement le cas. Il n'écrit plus beaucoup. Je n'écris que pour mon ombre, projetée par la lampe sur le mur. Il faut que je me fasse connaître d'elle. Il brûlera ses derniers textes. Personne n'a autant aimé et haï l'Iran que Hedayat, racontait Sarah. Personne n'a été aussi attentif à la langue de la rue, aux personnages de la rue, aux bigots, aux humbles, aux puissants. Personne n'a su construire une critique à la fois aussi sauvage et un éloge aussi immense de l'Iran que Hedayat. J'étais peut-être un homme triste, surtout à la fin de sa vie, à la fois acide et amer, mais ce n'est pas un écrivain triste, loin de là. Comme Hedayat, Paris m'a toujours intimidé. L'étrange violence qu'on y ressent, l'odeur d'arachide tiède du métropolitain, l'habitude qu'ont ses habitants de courir au lieu de marcher, les yeux vers le bas, prêts à tout renverser sur leur passage pour parvenir à destination. La grâce, qui paraît s'accumuler dans la ville sans discontinuer, au moins depuis Napoléon. Le fleuve si noble et si contraint dans ses berges pavées. Parsemé de monuments altiers et disparates. Le tout sous l'œil mou et laiteux du Sacré-Cœur me semble toujours d'une beauté baudelairienne, monstrueuse. Paris, capitale du XIXe siècle et de la France. Je n'ai jamais pu me défaire à Paris de mes hésitations de touriste, et mon français, même si je mets un point d'honneur à ce qu'il soit châtié, sobre, parfait, il est toujours en exil. J'ai l'impression de comprendre un mot sur deux, et pis encore, comble de l'humiliation, on me fait souvent répéter mes phrases. Depuis Villon et la fin du Moyen-Âge, à Paris on ne parle que le jargon. Et j'ignore si ces traits de caractère font paraître Vienne ou Berlin douce et provinciale, ou si, au contraire, c'est Paris qui reste enfoncé dans sa province, isolé au cœur de cette île de France, dont le nom est peut-être à l'origine de la singularité de la ville et de ses habitants. Sarah est une vraie Parisienne, si cet adjectif a réellement un sens. En tout cas, elle y est née, y a grandi, et, pour elle, il n'est bon bec que de Paris. Et pour moi aussi. Il me faut admettre que Sarah, même amaigrie par le surmenage, les yeux légèrement cernés, les cheveux plus courts qu'à l'accoutumée, comme si elle était entrée au monastère ou en prison, les mains pâles et presque osseuses, son alliance devenue trop grande, pringue-ballante à son doigt, restait l'idéal de la beauté féminine. Quel prétexte avais-je trouvé pour ce bref séjour parisien ? Je ne m'en souviens plus. Je logeais dans un petit hôtel tout près de la place Saint-Georges, une de ces places aux proportions miraculeuses, transformées en enfer par l'invention de l'automobile. Ce que j'ignorais, c'est qu'à deux pas de la place Saint-Georges, disait la brochure de l'hôtel que j'avais dû choisir inconsciemment, à cause des consonances amicales du nom de ce saint, beaucoup plus familier que, mettons, Notre-Dame de Lorette ou Saint-Germain-l'Auxerrois, à deux pas de la place Saint-Georges signifiait aussi malheureusement à deux pas de la place Pigalle, monument gris, élevé à toutes sortes d'atrocités visuelles, où les rabatteurs des bars à entraîneuses vous attrapaient par le bras pour vous proposer de boire un verre, et ne vous lâchaient qu'après vous avoir copieusement traité, certain du sursaut de virilité que déclencheraient ces invectives, de pédale ou d'impuissant. Curieusement, cette place Pigalle et les rues adjacentes se trouvaient entre Sarah et moi. L'appartement de Sarah et Nadim était situé un peu plus haut, place des Abbesses, à mi-chemin de l'ascension qui vous mène, ô Paris, des putains de Pigalle aux moignillons du Sacré-Cœur, et, au-delà de la butte,